Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'œnologie, tous les lundis à 13h05. Pour tout savoir sur le vin, de la vigne à la bouteille, en passant par le tonneau, rendez-vous les lundis à 13h05 et les dimanches à 17h sur Radio Cité Genève. Et comme tous les lundis, retrouvons avec grand plaisir Aristide, bonjour.
Bonjour, Aristide vous retrouve toujours avec le même plaisir. Il essaye de vous donner des informations pertinentes sur le vin. Et je crois que sa première mission, c'est de parler vrai dans un domaine où il y a quand même passablement de traficotage. Il y a des gens honnêtes, c'est majorité je pense, donc il faut pas tout noircir. Mais il s'en passe des belles et on va vous en apprendre. Donc aujourd'hui, on a un invité... vigneron bordelais, le type de l'honnête homme paisible qui ne penserait pas un instant à frauder et qui, malgré tout, on sait beaucoup parce qu'on laisse traîner ses oreilles dans les villages, les gens papotent et puis voilà. Donc, on va donner un écho démystificateur. Mais avant, nous commençons par une petite revue de presse. Alors, quels sont les événements récents? Eh bien, je les tire de mes lectures principalement. On a parlé de l'ésotérisme de certains producteurs de vin, n'est-ce pas? On a parlé des cornes de vache qui avaient soi-disant un pouvoir magique. Alors, c'est les biodynamistes qui en sont partisans. Et les biodynamistes pensent que la corne de vache a des... pouvoir absolument surnaturel. Et ils en font une espèce de bouillie. Mais cette bouillie, elle se fait pas n'importe comment. C'est-à-dire qu'il faut d'abord avoir les cornes de vache. Bon, première chose, c'est pas évident d'avoir des cornes de vache. Moi, j'en ai pas à la maison. Et j'ai essayé de demander à mes amis si des fois ils pouvaient me passer des cornes de vache. On n'a pas eu beaucoup. Bon, on a voté sur les cornes de vache en Suisse. Et malgré tout, ces alchimistes d'un autre temps utilisent annuellement 100 000 cornes de vache. Alors les cornes de vache, dès que vous les avez, il faut les garder précieusement et les enterrer à l'automne, et elles vont se décomposer. Seulement, vous les enterrez pas n'importe quand. Il y a des moments précis, il faut tenir compte des phases de la Lune. Et là, je cite, et il faut les enterrer quand la Terre est devant la constellation de la Vierge, le Soleil, en courbe descendante, attire les forces cosmiques vers le sol. Donc voilà, vous mettez vos cornes en terre au moment où le Soleil est assez incliné et les forces cosmiques vont pénétrer dans les cornes de vache, suite de quoi vous ferez une bouillie et ça va enrichir votre vigne diablement. Voilà. Donc, inutile de dire que je ne partage pas ces croyances, mais enfin, elles sont assez largement pratiquées. Il y a des adeptes. Une autre chose, dans l'actualité, le mois sans alcool. Alors, en France, certaines personnes de beaux esprits, soucieux de la santé publique, ont décrété qu'il devait y avoir non pas un jour sans alcool, comme il peut y avoir une journée sans tabac, mais un mois entier sans alcool. Et ces initiateurs se sont réclamés d'une tentative anglaise parce que, après les fêtes en Angleterre, il y a un mois, c'est le « Dry January ». Et c'est une manifestation, si on peut dire, qui existe depuis 2013. Alors des Français, encore une fois soucieux de notre bien, ont voulu instaurer ce système et ils sont tournés vers le ministère de la Santé. Le ministère de la Santé, comme de bien entendu, a donné des fonds pour encourager cette entreprise. Et voilà-t-il pas que le lobby vigneron s'est tourné vers le président Macron qui a reçu quelques délégués à mi-novembre et finalement Macron a décidé de tout faire pour saboter ce mois de janvier sans alcool, bien que son ministère de la Santé ait investi de l'argent. Voilà, opération annulée. Je tiens à redire que nous plaidons pour la modération. Simplement, le vin est un produit absolument prodigieux, absolument magique, vertigineux. Nous ne plaidons pas pour les abus, mais au contraire pour la modération. La modération qui ne freine pas vos capacités et qui ne vous interdit pas de conduire. Voilà. Un autre fait qui m'a semblé assez intéressant, nous avons rencontré quelques vignerons, c'est en Vaudois, par exemple, qui disait qu'il y avait une grande détresse dans le vignoble. Une détresse à cause des importations de vins étrangers, italiens, espagnols, des vins du tiers-monde, par exemple, qui envahissent le marché et qui offrent des prix beaucoup plus avantageux que ceux que peuvent proposer les vignerons suisses. Donc, fait absolument historique, Vaudois, Genevois, Valaisans se sont tournés vers Berne pour que l'on pose un frein aux exportations, aux importations. C'est le combat de Willy Cretigny que nous avons invité à Nectar, qui voudrait aussi que la concurrence soit régulée. Et alors, une fois encore, il faut quand même bien souligner que la Suisse, Genève, ne peut pas produire des vins au même prix que des vins espagnols, par exemple. Je ne juge pas de la qualité, mais simplement, le coût du travail est plus élevé chez nous. Nous sommes assujettis à des lois nettement plus contraignantes que d'autres. Les rendements sont extrêmement cadrés. Et puis, il se trouve que le climat oblige à davantage de traitements que dans les pays chauds. Donc, les prix genevois, vaudois sont conformes. Simplement, le prix de revient des vins d'ici est plus élevé que celui d'un vin, par exemple, de Nouvelle-Zélande.
Radio Cité Genève.
Radio Cité Genève.
Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'œnologie sur Radio Cité Genève.
Et voici la deuxième partie de Nectar pour aujourd'hui, avec toujours Aristide,
qui vous livre la suite de sa revue de presse. Alors, les Chinois, on parle des fois des Chinois comme un peuple qui commence à s'intéresser au vin. Et c'est vrai qu'ils font des efforts, même pour construire des châteaux à la Bordelaise, et voilà que c'est en train de devenir une industrie nationale, presque. On aurait bien tort de penser que le Chinois boit n'importe comment. En réalité, le Chinois a un palais extrêmement éduqué, il est extrêmement attentif. On dit qu'ils font main basse sur les vins européens, c'est pas tout à fait vrai. En réalité, il faut corriger. Si vous êtes vigneron, par exemple en Bourgogne, et que vous donnez que vous essayez de vendre un vin médiocre, bien les Chinois ne voudront pas. Par contre, si vous avez un grand cru ou un premier cru qui est extrêmement réussi, alors là, ils se précipiteront dessus et ils y mettront le prix simplement. Donc, ne pas croire que le Chinois, nouveau venu dans le domaine du vin, boit n'importe comment, c'est exactement le contraire qui est vrai. Une autre chose que je veux vous rapporter, qui est récente, on a beaucoup parlé des bouchons. D'abord des bouchons Liège, et puis des bouchons synthétiques et d'autres produits, des capsules par exemple. Eh bien maintenant, le Nec Plus Ultra, ça serait des bouchons, devinez, faits avec du marc de raisin. Alors évidemment, ça réduit l'empreinte écologique. L'entreprise qui fabrique ça, c'est Nomacork, qui est le numéro 2 du bouchon dans le monde. Et où se trouve leur usine? Je vous le donne en mille, ça ne s'invente pas. Eh bien, elle est à 20 km de Liège. Ça tombe bien. Donc, on fait des bouchons avec du marc, les rafles, les pépins et même les feuilles. Autrefois, certains bouchons synthétiques étaient faits avec les tiges des cannes à sucre. Ça a été fait surtout au Brésil. Et maintenant, vont arriver sur le marché, très prochainement, des bouchons faits avec du marc de raisin. Voilà. Et ben, on attend avec ferveur et on se réjouit de pouvoir en parler à cette antenne. Une dernière chose dans la revue. L'année dernière, à propos des stands pour Noël qui avaient été installés au Bastion, ça avait été une manifestation à succès, les Genevois étaient accourus en grand nombre, quelqu'un avait relevé que l'on vendait du vin valaisan de Provins. Bon, il y a eu un léger tollé, on peut comprendre pourquoi. Je constate simplement cette année que sur les affiches qui annoncent cet événement, eh bien, il y a de nouveau la marque Provins. Voilà, chacun pensera ce qu'il désire. Une dernière chose, c'est une chose que j'ai lue dans la revue Vin de France, qui est une revue que l'on peut considérer comme une référence. Eh bien, je lis dans le numéro 636 datée du 19 novembre 2019, donc, qu'un nommé Hervé Grandot, qui est le président de la Fédération des Grands Vins de Bordeaux, a été condamné pour tromperie et falsification de ses vins. On savait qu'il y avait des tripotages, mais ce qui est absolument incroyable, c'est que le personnage a été tout récemment réélu par ses pairs pour présider la même association, la même fédération des grands vins de Bordeaux. Voilà. Alors, cela nous amène à présenter notre invité, qui est un vigneron du Blayais. Son père était vigneron, son grand-père était vigneron. C'est dire qu'il connaît la tradition du pays. Alors, les révélations qu'il nous a faites sont peut-être relativement explosives, je le reconnais, mais elles sont complètement attestées. Elles sont attestées par l'entrefilet que je viens de vous donner, qui était pêché dans la revue Grand Vin de France. J'aimerais, à la faveur de cette interview, quand même bien souligner que à Bordeaux, il existe des producteurs honnêtes, qu'il existe des grands vins. Simplement, si pour vos fêtes, vous voulez de grands Bordeaux, goûtez-les. N'achetez pas à l'aveugle, on n'achète pas l'étiquette, et peut-être que dans ces conditions, vous serez satisfait. Mais enfin, voilà, c'est peut-être un défaut de l'humain, la cupidité, et on n'hésite pas à faire beaucoup de magouilles qui existent toujours. Voilà. Alors, je donne la parole à présent à cet ami, honnête vigneron du Blayais, qui va vous faire part de son expérience.
Radio Cité Genève,
92.2 FM.
Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'œnologie sur Radio Cité Genève.
Chers amis, merci de bien vouloir écouter Nectar. Nous sommes en présence d'un vigneron du Bordelais. Un de ces vignerons comme on les aime bien, c'est-à-dire des gens honnêtes qui font un travail artisanal, qui sont scrupuleux et qui essayent de faire au mieux. Et puis, ces gens, en même temps, ils connaissent très très bien le monde du vin et ils savent très bien quel est le niveau de supercherie qui peut exister dans ce domaine. Supercherie, bluff, esbrouf, etc. Donc, si je tends mon micro à ce personnage dont je tais le nom, c'est pour simplement remettre sans agressivité l'église au milieu du village, et tout simplement, tout bonnement, pour parler vrai. Voilà, alors donc vous êtes vigneron et vous connaissez très très bien, par exemple, le monde des châteaux crus classés du Médoc. J'ai entendu dire que parfois, en très mauvaises années, par exemple quand il y a eu du gel, le Médoc est coupé avec des vins de la région, mais évidemment dont on tait l'origine.
Tout à fait. Tout à fait. À l'époque, mon père a vendu du vin qui a servi à augmenter la production de grands châteaux du Médoc, de grands crus classés, dont je tairai le nom, mais voilà, c'est pour dire. Alors, nous le payait bien cher, forcément, pour, disons, satisfaire leurs besoins duchés, mais voilà, c'était pas très légal. Voilà.
Il y a sûrement d'honnêtes gens en Médoc, on en connaît, mais paraît-il que aussi actuellement, ils sont capables d'acheter des vins espagnols ou du tiers-monde pour couper leur vin, pour le rendre peut-être un peu plus caressant, que sais-je.
Oui, ça, certainement, on voit des citernes qui proviennent de pays voisins, de l'autre côté des Pyrénées, pour ne pas les citer, et qui viennent aussi, ben voilà, dans la région, des grands crus ou des grosses caves coopératives qui n'ont pas fait le plein parce qu'il y a eu du gel ou ci ou là, et dont au final, on voit que ben, tous les rendements sont faits, c'est formidable.
Paraît-il aussi, mais décidément je suis très très mauvaise langue, paraît-il que les vins du Languedoc venaient aussi en renfort.
Alors il y a eu une époque, oui, mais au jour d'aujourd'hui, ça se fait beaucoup moins. C'est plus des pays autres que la France, puisqu'ils sont bien moins chers. On peut trouver des vins venant de pays étrangers à un eurolitre, par exemple, et qui après est vendu ben, dans ces grands crus à 50, 60 euros la bouteille.
Je me suis laissé dire que pour, mettons, les tout ou grands crus du Médoc, disons un château qui est excellent d'ailleurs, Léoville-Lascaz, au bout du compte, une bouteille revenait, tout frais compris, à environ 30 euros. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est possible? Alors que ces bouteilles peuvent se vendre 300, 500, 800 euros. Quel est, à votre avis, le prix de revient réel de ces grands crus?
Alors le prix réel, on peut pas trop comparer nos petites côtes avec ces grands crus, mais alors c'est vrai qu'ils ont jardiniers, il y a cuisiniers, il y a beaucoup de personnel, mais bon, oui, certainement que ceux qui sont à 30 euros sont certainement aussi bons et y arrivent aussi, et que ben après les grands qui se vendent à 100 et voire plus, ben ceux-là ils se mettent beaucoup plus dans la poche, quoi.
Nous avons parlé aussi de Saint-Émilion. Paraît-il que dans ces régions, il y a passablement de copinage, non, entre ceux qui tiennent le haut du pavé et qui forment, est-ce qu'il faut dire une mafia, un gang, mais en tout cas qui faussent le marché, non?
On voit tous les jours dans les journaux la querelle qu'il y a pour être dans les crus bourgeois ou les grands crus classés. Donc il faut que ce soit le copain du copain finalement. Et voilà, donc c'est de la mafia, quoi.
C'est de la mafia, on peut le dire sans faire de polémique. Non. C'est-à-dire que il y a par exemple pour l'accession au titre de grand cru classé, au titre de grand cru classé A à Saint-Émilion, A ou B, il y a donc des effets de copinage.
Oh oui, ça c'est sûr, oui. Même qu'ils disent que soi-disant c'est fait à l'aveugle, mais tout est préparé à l'avance.
Est-ce que ces gens qui vendent des vins très chers, peut-être excellents par ailleurs, est-ce qu'ils osent se présenter volontairement dans des dégustations à l'aveugle?
Eh bien, on voit dans les comptes rendus sur les journaux, les médailles, et on voit très rarement les grands crus obtenir des médailles, ne serait-ce que Paris ou Bruxelles ou Mâcon. On voit pas les grands crus. Alors ils se disent meilleurs que les autres, tout ça, mais ils n'osent pas affronter justement les petits viticulteurs. Je pense que c'est plus parce qu'ils ont peur de pas avoir la médaille. Voilà.
Voilà. Donc nous avons été témoins de certaines dégustations à l'aveugle faites par des professionnels, et on s'aperçoit que des tout grands déçoivent et que parfois des nouveaux venus se mettent dans le peloton de tête.
Tout à fait. On voit que des petites appellations, eh bien, il y a certains domaines qui sortent premiers, bien classés, mais dont la bouteille reste à un prix raisonnable et par rapport à ces grands crus classés, dont la notoriété, bien sûr, n'est pas à faire, mais dont ils profitent beaucoup. Et malheureusement, le vin n'est pas toujours à la hauteur de ce que les gens pourraient penser, vu le prix.
J'ai appris par ailleurs que, peut-être assez récemment, un des tout grands propriétaires de Bordeaux, dont on voit le nom partout, avait, en dépit de la loi, fait raser une forêt pour y planter un petit vignoble.
Oui, on a vu, ça a paru dans les journaux, tout à fait. Alors je ne citerai pas le nom, mais cette personne avait arraché 200 hectares de bois. C'était à l'époque où nous étions encore en franc, c'était dans les années 2000. Et cette personne-là a eu une amende parce qu'elle avait arraché 200 hectares de bois et qu'elle avait planté 200 hectares de vignes. Elle a eu une amende de 20 000 francs. Donc on pense quand même qu'un petit viticulteur qui, lui, aura dépassé de plantation de 10 arbres ou de 15 arbres va se retrouver à la même amende, c'est quand même un peu exagéré.
Voilà, donc 20 000 francs, c'est des clopinettes par rapport aux bénéfices qu'il va en tirer de cet abattage.
Ah mais tout à fait, 200 hectares de vignes en Pessac léonien, c'est 20 000 francs, c'est juste l'argent de poche du cuisinier.
Voilà, donc en Pessac léonien. Donc méfiance, nous sommes à peu de temps des fêtes et vous achèterez peut-être des crus classés, des crus prestigieux, mais il faut savoir que les trucages et les malhonnêtetés sont assez courantes, malheureusement. Pause.
Radio Cité Genève.
Radio Cité Genève.
Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'œnologie sur Radio Cité Genève.
Vous êtes toujours sur Radio Cité. Merci de votre fidélité à l'émission Nectar. Nous parlons un tout petit peu parce que nous avons un témoignage très direct du même vigneron, un témoignage concernant la viticulture en Nouvelle-Zélande. Donc, partons de l'idée que c'est une industrie, en somme.
Alors, tout à fait. Les vins naturels, ils sont très, très rares. On a constaté, pour y être allé, que bien, on a vu que la chimie était tout à fait là, que la plante, ben, dans les terroirs de Nouvelle-Zélande, il n'y avait pas d'acide tartrique dans les sols, donc la plante ne pouvait pas le puiser. Mais pour équivaler les vins de Bordeaux, par exemple, eh bien, il était très facile de faire venir des trains d'acide tartrique pour mettre dans les cuves, et de façon à ce que, ben, au niveau d'analyse, tout soit net pour ressembler à un Bordeaux. Alors, et par contre, dès qu'il n'y avait pas assez d'acide tartrique, eh bien, on y mettait de l'acide sulfurique. Voilà, c'est tout à fait simple.
Voilà, et donc paraîtrait-il que dans ce pays où la législation est différente de la nôtre, on peut mettre des arômes pour rendre le vin plus flatteur, par exemple.
Exactement, on voyait des fûts de sarlis, d'extrait de cerise, d'extrait de cassis ou autre, et donc, l'œnologue passé disait qu'il faut mettre tant de centaines de litres dans cette cuve pour apporter du fruit. Voilà, donc c'était tout du trafic, mais rien de naturel.
Et ça marche. Donc les grands connaisseurs, on peut avoir des doutes finalement.
Tout à fait. Et je pense que le mieux, c'est de goûter et de rester français. On a de très belles choses en France.
Voilà, je dirais la même chose pour le canton de Genève, auquel on est attaché, le vignoble genevois, dont on respecte et admire les vignerons. Ayez contact avec votre vigneron, goûtez ses vins, vous nourrez un lien de confiance, et sur les tables des fêtes, vous aurez de la réelle bonne marchandise. Merci à vous. Pendant que nous y sommes, encore un petit témoignage d'un autre vigneron tout à fait célèbre dans le Sauternais, qui était propriétaire d'un grand château classé. Et c'est un personnage qui rue dans les brancards. Alors, son témoignage, ses positions en quelques mots. Ce vigneron, attaché à la tradition, dit « Actuellement, on tue les sols avec les produits de synthèse. On tue la vie microbienne et pour la vigne, c'est un fléau qui est bien pire que le réchauffement. Et ce vigneron est attaché simplement au cuivre, dont il dit que c'est un produit efficace qui ne fait pas de mal. Ce vigneron se désole du dépérissement de la vigne. Il estime qu'actuellement en Europe, la vigne est en mauvaise santé et que ce n'est pas tant du fait du réchauffement climatique que lié à des pratiques qui sont coupables. Et si je donne la parole à ce personnage, c'est surtout pour contrer ce qui a été dit parfois à ce micro. Plusieurs vignerons ont présenté ces cépages nouveaux qui s'appellent le Divico et le Divona, qui est un blanc, qui résistent aux maladies. Or, pour ce vigneron du Bordelais, encore une fois attaché à une noble tradition séculaire, eh bien, ces produits, ces cépages nouveaux sont une hérésie complète. Il fait la guerre à ces hybrides et il pense que on les introduit maintenant et que dans 30 ans, dans une génération, de nouvelles maladies seront apparues qui vont les décimer, même les passages, même les cépages résistants. Voilà. Alors, il cite, par exemple, cette espèce de supercherie qui consiste à donner des noms de cépages traditionnels à des hybrides qui n'ont pratiquement plus rien à voir. Il dénonce, par exemple, le Cabernet Blanc, produit en Suisse. Le Cabernet Cortir, c'est un Cabernet allemand. Et alors, semble-t-il que ces cépages ne vont pas résister longtemps et que, c'est peut-être encore un nouveau scandale financier, les vignerons de nos contrées risquent de devenir totalement dépendants vis-à-vis de ces personnages qui réussissent des obtentions nouvelles. Voilà. Donc, voilà, plaidoyer pour la tradition. Les cépages qui se plaisent dans une région doivent être maintenus, conservés, exactement à l'égal d'un patrimoine. Voilà. Eh bien, maintenant, nous faisons notre petit tour dans le Blayais, donc sur la rive droite de l'estuaire de la Gironde, et nous tendons notre micro à ce vigneron qui en sait beaucoup, peut-être presque trop même. Voilà, donc nous parlions d'une certaine mafia, ou gang, on peut hésiter entre les deux mots, des grands propriétaires de Saint-Émilion et de ceux du Médoc, au Médoc en particulier. Qu'en pensez-vous ?
Oui, je suis entièrement d'accord avec vous. C'est des mafieux. Et ces gens-là n'ont pas hésité lorsque il y a eu les années où le gel ou la grêle leur est tombée dessus. Ils ont été chercher des vins en Espagne au prix de même pas un euro le litre pour renflouer leur cave et transformer tout ça en grand cru classé. Voilà.
Voilà, donc vous avez entendu la parole d'un vigneron des côtes de Blaye qui sait exactement de quoi il parle. Alors, vous avez entendu de vos deux oreilles, vous n'avez pas rêvé. À Bordeaux, il y a encore des pratiques qui sont extrêmement douteuses et on peut résumer le propos de notre invité en disant qu'il y a actuellement une mafia, le mot n'est pas exagéré, qui règne sur les grands crus. Je vous dis à bientôt.